Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Tromboniste, influencé par les pionniers néo-orléanais, il a aussi dirigé l'un des orchestres les plus populaires du swing blanc. Une dispute avec son frère Jimmy conduira Tommy Dorsey, excellent tromboniste, à former l'un des meilleurs orchestres des années swing. Contrairement à la plupart des autres leaders blancs, il conservera l'esprit qui avait animé les aînés néo-orléanais. Encore une pépite des éditions Atlas avec un CD remasterisé. Qualité digitale, craquement en moins, swing en plus. Yes, indeed. Intro hot à l'orchestration très swing. Cy Oliver signe avec ce titre enregistré le 17 février 1941 l'un de ses meilleurs arrangements pour le grand orchestre de Tommy Dorsey. La voix n'est autre que celle de Frank Sinatra, accompagné par le quartet vocal des Pied Peters. Joe Stafford, Connie Haynes et Axel Stordahl.
Yes, indeed.
Making with jive, boy, you shout when it hits you.
Yes, indeed.
Yes, 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 you shout when it hits you.
Yes, indeed.
When the spirit moves you, you shout hallelujah.
I mean,
when it hits you.
Les vies de Jimmy et Tommy Dorsey semblent intimement liées l'une à l'autre. Nés et morts, à une année d'intervalle seulement, ils ont manifesté une égale passion pour le jazz. Et si Tommy s'est surtout illustré au trombone et son frère aîné au sax alto et à la clarinette, ils ont tous deux joué un rôle important dans le succès populaire rencontré par le swing durant les années 30 et 40. Pourtant, au terme d'une carrière qui s'est brusquement interrompue dans la seconde moitié des années 50, il est apparu clairement que les points de divergence avaient été nombreux. Jimmy a donné de lui une image sympathique, d'artiste sensible, alors que les coups de gueule de Tommy sont entrés dans la légende, peut-être d'ailleurs avec un peu d'exagération. Jimmy et Frank Sinatra lui ont d'ailleurs longtemps tenu rigueur de cette impulsivité, de cette incapacité à se contrôler. Mais c'est surtout sur le plan musical que la différence s'est manifestée. Encore qu'il ne soit pas toujours très facile de distinguer si tel ou tel morceau appartient au répertoire de Tommy ou à celui de Jimmy. Bien que Jimmy ait été un excellent sax alto, suscitant l'admiration de Charlie Parker lui-même, son rôle dans l'histoire du jazz n'en reste pas moins mineur au regard de celui de son frère cadet. Durant leurs années de séparation, c'est-à-dire de 1935 à 1953, quand même, Tony a connu un succès beaucoup plus grand, certes, parce qu'il était secondé à la fois par une compagnie de disques particulièrement dynamique et par des instrumentistes et des arrangeurs de très grand talent. Mais aussi parce que, à la différence de son frère, il avait trouvé un style bien à lui, ce qui devait contribuer à le préserver de lendemains difficiles. Well, get it, avec Tommy Dorsey, ça swing comme dans les plus grandes formations noires des années 30 et 40. Ce morceau en apporte la preuve. Les solistes s'expriment avec une grande liberté dans ce titre, gravé en 1942, en particulier le trompettiste Manny Klein. Ainsi, si Jimmy Dorsey, comme clarinettiste en tout cas, a souvent été jugé par rapport à Benny Goodman, ce qui l'a considérablement désavantagé, Tommy, lui, n'a jamais eu à pâtir de la comparaison avec les plus grandes formations de swing, que ce soit celle de Jimmy Lunceford ou même Count Basie, celle de Goodman ou Artie Shaw ou même de Glenn Miller. Dans le monde du jazz et même chez les deux frères, il y a toujours un gagnant et un perdant. Né à Shenandoah, dans le Connecticut, les 29 janvier 1904 et 19 novembre 1905, respectivement, Jimmy et Tommy Dorsey viennent très jeunes à la musique grâce à leur père, qui, en bon professeur, leur enseigne la pratique de différents instruments. Des deux frères, Jimmy est celui qui se montre le plus précoce. À 8 ans, il devient cornettiste dans un petit ensemble que dirige son père. Et 2 ans plus tard, il apprend, avec une aisance déconcertante, dit-on, le saxophone alto, ce qui lui permettra de jouer avec Jean Goldkett, puis les Scranton Sirens, dès le début des années 20. Pendant ce temps, Tommy travaille quotidiennement le trombone, instrument qu'il a finalement préféré à la trompette, mais sans penser le moins du monde à gagner sa vie comme musicien de jazz. What is this thing called love? Pour certains, Cole Porter est le compositeur du siècle. Extrait du show Wet Up and Dream, ce célèbre standard de l'avant-guerre est ici revisité de façon swing par le grand orchestre de Dorsey. Il faut également saluer la performance de Connie Hance, chanteuse à la voix claire, qui n'a pas peu contribué au succès de l'orchestre au début des années 40. Au milieu des années 20, Tommy rejoint son frère au sein des California Ramblers. Cette formation originaire de l'Ohio, malgré son nom, voit alors passer un grand nombre d'instrumentistes de talent. Red Nichols et Adrian Rollini, notamment, permettent à Jimmy et Tommy Dorsey d'affiner leur façon de jouer. En 1928, toujours inséparables, les deux frères fondent le Dorsey Brothers Orchestra avec un des meilleurs instrumentistes blancs du moment. Un orchestre qui tourne. 4 ans plus tard, après des nuits et des nuits passées dans les clubs, après avoir animé un nombre impressionnant d'émissions de radio, ils décrochent enfin un contrat d'enregistrement. Après le décisif « I'm getting sentimental over you », la formation semble appelée à un avenir radieux, au moment même où le public prête une oreille attentive au swing. Mais surtout, avec une trompette et 3 trombones, au lieu des 2 trombones et des 3 trompettes, ça change tout, que l'on trouve habituellement dans les autres orchestres, elle apparaît d'une grande originalité, pour ce qui est du sound, mais aussi de la qualité des arrangements, signés pour la plupart par Glenn Miller. Voici une adaptation très swing d'un air traditionnel américain, enregistré le 17 février 1941. Swing Low, Sweet Chariot se développe autour de chorus énergiques, celui de Johnny Mintz notamment, et de toute beauté, un clarinettiste qui n'est pas sans évoquer Benny Goodman lui-même. C'est après le départ de Glenn Miller, qui répondit à une offre de Ray Noble, que les relations entre les deux frères commencent à se détériorer. Au début de 1935, tandis que le Dorsey Brothers Orchestra se produit au casino de Glen Highland, passage obligé pour les big bands, une violente dispute éclate entre Jimmy et Tommy, à la stupéfaction du public. La rupture que l'on sentait venir sera consacrée quelques mois plus tard, lorsque Tommy décidera de voler de ses propres ailes, laissant le seul leadership de l'orchestre à Jimmy. Pour ce dernier, le début des années 40 constitue la période la plus riche de sa carrière. Les tournées se multiplient aux États-Unis et les succès s'enchaînent imperturbablement. Jimmy peut compter sur des vocalistes de renom, notamment Bob Eberle et Helen O'Connell, et sur d'excellents instrumentistes comme Charlie Teagarden, le frère de Jack, et John Guarnieri. Pendant que Jimmy poursuit son beau parcours, Tommy, malgré son caractère exécrable, certains le décriront comme un véritable dictateur, il réussit à s'entourer lui aussi de musiciens prestigieux. Max Kaminski, Bud Freeman, Pee Wee Herwin, Bunny Berrigan, Buddy Rich et Cy Oliver sont du nombre. Ils lui apporteront beaucoup, tout comme un jeune crooner nommé Frank Sinatra. L'orchestre alors séduit partout où il se produit, au Kentucky Club, à l'Onyx, lors des tournées qui le conduisent dans tous les États de l'Amérique. Les enregistrements sont chaleureusement accueillis, tout comme les passages des deux formations du tromboniste sur les radios. Son Big Band et le Clambake Seven. Mais s'il est un véritable chef d'orchestre qui sait être un ami en maintes occasions, Tommy est aussi profondément attaché à l'exercice du pouvoir. Après ses nombreux succès, Frank Sinatra lassé quitte le Dorsey Orchestra en 1942. Personnage volontaire et parfois même difficile, Tommy Dorsey l'a été assurément. Frank Sinatra conservera longtemps une profonde aversion à son encontre, au point qu'il refusera de participer à une émission réalisée à la mémoire du tromboniste. Tommy Dorsey et Frank Sinatra ne s'entendaient déjà plus lorsqu'a été enregistré ce titre en avril 1940, East of the Sun, ce qui ne se laisse guère deviner ici. Le tromboniste domine parfaitement son ensemble, qui crée un environnement sonore idéal pour Frank Sinatra.
East of the sun,
fame in the brightness,
west of the moon,
we'll be digging a glow,
we'll build a dream house,
the righteous paths
of love,
where you can really lay it on me,
nearer to the sun in the day,
we'll be jumping,
near to the moon at night,
you'll be with me,
we'll live in a lovely way,
solitude, I'm here,
living on love. Stars will find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon.
On the June night, dear, kiss me and hold tight forever.
East of the sun and west of the moon.
Well, all right then, take 'em, Bunny.
Bunny.
Dorsey poursuit sa route, aujourd'hui comme hier, jalonnée de succès avec de nombreux sidemen. Ses bagarres, notamment avec l'acteur John Hall, vont pourtant le priver de la place privilégiée qu'il occupait sur les ondes. Qu'importe en définitive, un très large public lui reste fidèle et les médias continuent de s'intéresser à lui. En 1947, Hollywood réussit même à réunir les deux frères dans un film intitulé The Fabulous Dorsey, qui retrace leur carrière mouvementée. Ce n'est toutefois qu'en 1953, après 18 années de séparation, que Jimmy et Tommy Dorsey enterrent l'âge de guerre, définitivement. Le premier dirige le nouvel ensemble, qui reprend le nom de Dorsey Brothers Orchestra. Mais Jimmy conserve une certaine liberté, celle de jouer les morceaux de son choix. Et surtout, possède désormais un droit de regard sur l'organisation des spectacles. Ainsi précisé, l'entente entre les deux frères portera vite ses fruits et l'orchestre, comme au plus beau jour des années 30, suscitera un vif intérêt. Mais Tommy affronte alors un douloureux divorce qui l'a considérablement fragilisé. Fatigué par la répétition, les concerts et les enregistrements, il doit prendre des somnifères pour pouvoir dormir. Dans la soirée du 26 novembre 1956, sans doute en a-t-il trop avalé. Victime de nausées, il meurt d'une congestion cérébrale consécutive à une intoxication alimentaire. C'est donc Jimmy qui présidera alors aux destinées de l'orchestre. Mais quelques mois après Tommy, le 12 juin 1957 précisément, il meurt à son tour du cancer dont il était atteint. Les deux frères ennemis se retrouvaient ensemble pour l'éternité. Alors que les rythmes swing devaient bientôt disparaître avec l'arrivée fracassante du bop, Tommy Dorsey et son orchestre signaient pourtant l'un des chefs-d'œuvre du genre avec Opus One du grand Cy Oliver. On remarquera dans la section des anges Buddy DeFranco qui se convertira bientôt au nouveau langage du jazz. Avec Opus One, Marie-France Guimaroche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Roland Richard pour vous dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.